Chapitre 20. Une peine incompressible. À mai. L'heure de la curée. Le grand intendant. Interrogatoire. 1. Radar résiste à l'envie de retourner auprès de son nouveau maître, de courir jusqu'au mur et de se dresser sur ses pattes arrière pour gratter à la porte. Elle ne le fait pas. Elle a reçu un ordre, alors elle court. Elle a l'impression qu'elle pourrait courir toute la nuit, mais ce ne sera pas nécessaire car elle connaît un endroit sûr. Si elle peut y entrer... Paf, paf! Elle galope, encore et encore, ventre à terre. Il n'y a pas de clair de lune pour l'instant. Les loups ne hurlent pas, mais elle perçoit leur présence tout près. Si le clair de lune apparaît, ils attaqueront. Elle sent que c'est pour bientôt. Dans ce cas, elle se battra. Sans doute qu'elle succombera sous le nombre, mais elle se battra jusqu'au bout. Paf, paf.
Réveille-toi, petit.
Les lunes émergent de derrière un nuage qui s'effiloche. La plus petite courant éternellement derrière la plus grosse. Et un premier loup se met à hurler. Mais là-bas, droit devant, il y a le wagon rouge et le hangar où Charlie et elle ont passé leur première nuit quand elle était encore malade. Et si elle parvient à l'atteindre, elle pourra se faufiler à l'intérieur si la porte est restée ouverte. Elle pense que Charlie ne l'a pas refermée entièrement, mais elle n'en est pas certaine. C'était il y a si longtemps. Si la porte est ouverte, elle pourra se redresser et la fermer avec ses pattes avant. Dans le cas contraire, elle fera face à la meute, elle se défendra jusqu'à son dernier souffle. Paf, paf!
Tu veux sauter encore un repas? Non, non.
La porte est entrouverte. Radar se glisse à l'intérieur du hangar et... paf!
2. Cette dernière claque pulvérisa mon rêve et en ouvrant les yeux, je découvris une lumière floue et aléatoire et un individu agenouillé au-dessus de moi. Ses cheveux tombaient sur ses épaules et il était si pâle que, un bref instant, je crus reconnaître le soldat de la nuit qui conduisait le petit bus électrique. Je me redressai vivement. Un éclair de douleur vrilla à l'intérieur de mon crâne, suivi d'une vague de nausées. Je levai les poings. Surpris, l'homme eut un mouvement de recul, car c'était bel et bien un homme, et non pas une créature livide entourée d'une lumière bleue qui jaillissait de ses yeux. Les siens étaient creusés et meurtris, mais c'étaient des yeux humains. Et il avait des cheveux châtain foncé, presque noirs, pas gris.
« Laisse-le crever, Amé !»
cria quelqu'un.
« Ça fait 31 ! Jamais ils attendront d'arriver à 64 ! C'est fini ce temps-là ! Encore un et on est foutu !»
Amé, si tel était son nom, se retourna vers la voix. Son large sourire dévoila des dents blanches sur un visage crasseux. Il ressemblait à une fouine solitaire.
« J'essaie de rédimer mon âme, aïe ! En faisant le bien, on est trop proche de la fin pour ne pas penser à l'éternité. »«
Allez vous faire foutre, toi et ton éternité !»
rétorqua le dénommé aïe.
« Il n'existe que ce monde-ci, puis le feu d'artifice et rien d'autre !»
J'étais assis sur une pierre froide et humide. Derrière l'épaule décharnée de Hamet, je distinguais un mur fait de blocs de pierre ruisselants et tout en haut, une fenêtre munie de barreaux. Et entre ces barreaux, le noir complet, je me trouvais dans une cellule. Peine incompressible, songeais-je. Je ne savais pas d'où je sortais cette expression. Je savais juste que ma tête me faisait terriblement souffrir et que cet homme avait une haleine épouvantable. À croire qu'un petit animal était mort dans sa bouche. Accessoirement, je m'étais pissé dessus. Amé se pencha vers moi. Je voulus reculer, mais il y avait d'autres barreaux derrière moi.
« Tu m'as l'air costaud, petit. »
La barbe naissante qui entourait sa bouche chatouillait mon oreille. C'était à la fois horrible et pathétique.
« Est-ce que tu vas me rédimer comme je t'ai rédimé ?»
Je voulus demander où j'étais, mais seules des bribes de sons brisés sortirent de ma gorge. Je passai ma langue sur mes lèvres, sèches et enflées.
Soif.
Je peux arranger ça. Il se précipita vers un seau posé dans le coin de ce qui était effectivement une cellule. Et Ahmet était mon compagnon de détention. Il portait un pantalon en lambeaux qui s'arrêtait aux genoux comme une caricature de naufragé dans une bande dessinée, et un simple débardeur en haut. Ses bras nus brillaient dans la faible lumière. Ils étaient affreusement maigres, mais ne semblaient pas gris. Difficile cependant de l'affirmer avec certitude dans cet endroit sombre.
« Espèce d'idiot !»
Cette insulte n'émanait pas de celui que Ahmet avait appelé Aïe.
Pourquoi aggraver les choses? Ta nounou t'a laissé tomber sur la tête quand t'étais bébé. Ce gamin respirait presque plus. Suffisait de s'asseoir sur sa poitrine et on n'en parlait plus. On serait retombé à 30, ni vu ni connu.
Ahmet ne l'écoutait pas. Il prit un gobelet en fer blanc sur une étagère fixée au-dessus de ce que je devinais être, sa paillasse, et le plongea dans le seau. Il me le tendit en appuyant un doigt, aussi sale que tout le reste, dessous.
« Y a un trou !» expliqua-t-il.
Je m'en fichais. Je n'avais pas l'intention de perdre une seule goutte d'eau. Je saisis le gobelet à deux mains et le vidai d'un trait. Il y avait de la terre dans l'eau, mais là encore je m'en fichais. J'étais au paradis.
« Suce-la pendant que t'y es !»
lança un autre homme.
« Taille-lui une bonne pipe, Ahmet ! Ça lui redonnera un coup de fouet !»
Où je suis ? Ahmet se pencha vers moi de nouveau, dans un souci de discrétion. Son haleine me dégoûtait. Elle amplifiait mon mal de tête, mais il fallait que je sache, alors je la supportais. Maintenant que je reprenais connaissance petit à petit, laissant derrière moi la vision optimiste de Radar réussissant à s'enfuir, je m'étonnais de ne pas être mort.
« Maline, »
murmura-t-il.
« Deep Maline. 10. »
Un mot que je ne connaissais pas.
« Sous le palais. »«
20 !»
cria Aïe.
« Tu verras plus jamais le soleil, le nouveau. Comme nous, faut te faire à cette idée. »
Je pris le gobelet des mains de Ahmet et traversai la cellule avec l'impression d'être dans la peau de Radar quand elle était au plus mal. Je remplis le gobelet et stoppai avec mon doigt le filet d'eau qui s'échappait dessous avant de boire. Le garçon qui regardait autrefois TCM et commandait des trucs sur Amazon se retrouvait dans un cachot. Car on ne pouvait pas appeler ça autrement. Des cellules s'alignaient de part et d'autre d'un couloir humide. Des brûleurs à gaz, fixés au mur, ici et là, dispensaient en catimini une lumière jaune bleutée. De l'eau gouttait du plafond taillé dans la roche et des flaques s'étendaient au milieu du passage. En face, un type balèze, vêtu uniquement d'un caleçon long, ou ce qu'il en restait, vit que je le regardais. Il sauta sur les barreaux de sa cellule et les secoua en produisant des bruits de singe. Des poils tapissaient son large torse, il avait un visage épais et un front bas. Il était affreusement laid. Mais je ne distinguais aucune trace de ce défigurement progressif que j'avais vu sur le chemin qui m'avait conduit jusqu'à cette charmante demeure, et sa voix était présente à l'appel.
« Bienvenue, le nouveau !»
C'était Aïe. J'apprendrai par la suite que ce nom était le diminutif d'Ayota.
« Bienvenue en enfer! Quand le 1 contre 1 viendra, s'il vient, je crois que je t'arracherai le foie pour m'en faire un chapeau. Au premier tour, au deuxième tour, ils peuvent m'envoyer qui ils veulent. En attendant, bon séjour !»
Au bout du couloir, près d'une porte en bois renforcée par des barres de fer, un autre prisonnier, une prisonnière plus exactement, s'écria
« Tu aurais dû rester dans la citadelle, petit !»
Et puis plus bas,
« Moi aussi. Mourir de faim aurait été préférable. »
Ahmet marcha vers le coin de la cellule opposée au seau d'eau, baissa son pantalon et s'accroupit au-dessus d'un trou dans le sol.
« Je suis malade. C'est peut-être les champignons. »« Ça fait plus d'un an que t'en as pas mangé !»
répliqua Aïe.
« Tu es malade, oui, mais les champignons n'y sont pour rien. »
Je fermai les yeux.